Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le 93.6. Vous êtes sur Radio Bulle, votre radio de la Genêt. Merci de votre fidélité, Myriam Besson avec vous pour vous présenter un nouveau numéro de Café César. Café César, notre petit moment d'enchantement où j'invite mes invités en studio et vous aussi, mes auditeurs, à découvrir une histoire du vieux sage César, héros des romans de Bernard Montault, et à échanger sur ce qu'elle nous a inspiré. J'aime ces histoires car je me reconnais tellement en Jacques et dans ses maladresses touchantes. Au fond, Jacques, c'est un peu moi et c'est un peu chacun de nous, dans notre nature ordinaire. Mais je peux aussi me projeter dans ce sacré personnage de César. Car au fond, César, c'est aussi ce meilleur, cette sagesse, cette conviction intime qui habite au fond de mon cœur, au fond de chacun de nous, dans notre nature meilleure. Et si nous avions tous en nous notre petit Jacques et notre grand César, alors nous pouvons les rencontrer et faire le chemin de Jacques à César. Ils sont présents en studio avec moi. Je salue Bruno. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour Myriam, bonjour tout le monde.
Christelle.
Bonjour Myriam, bonjour tout le monde.
Et Delphine qui nous a rejoint.
Bonjour Myriam, bonjour tout le monde.
Et voici l'histoire du jour, c'est un extrait, cette fois-ci, de César et l'éclaireur, qui se trouve à la page 168. Et nous allons parler de l'art du deuil à la manière de César. Mais avant de lire cet extrait, je situe le contexte. César et Jacques se retrouvent dans un restaurant. C'est César qui a amené Jacques dans ce restaurant et... Jacques vient de perdre sa grande amie Thérèse, qui est morte d'un cancer. Et César lui montre, le temps de ce moment du restaurant, comment la rendre présente, comment rendre présent leur mort au lieu de souffrir de leur absence. Dans la page précédente, César disait justement à Jacques « Je crois que ce qui encombre les morts, ce sont nos souvenirs tristes. » Et il dit « Mon Jacques, n'encombre pas Thérèse. » Et donc, ils se retrouvent tous les deux au restaurant et chacun essayant d'évoquer les meilleurs souvenirs qu'ils ont de leur conjointe défunte. Et donc, nous arrivons à la suite, dans un tout petit peu plus loin, toujours au restaurant, et nous allons écouter la suite de cette histoire.
On nous avait apporté le fromage et César mangeait comme un homme qui ne fait qu'une seule chose à la fois. Comme je l'avais attendu, ce papier royal. C'est curieux. On passe sa vie à le chercher, mais on ne le sait que le jour où on l'a trouvé. Avais-je seulement une fois conçu ma vie sans lui ? Subtil agencement des choses auxquelles nous avons tous droit, mais personne n'y croit. Après le dessert, il prit un café. Il plaisanta sur la soupe au lard et la chicorée. Puis, en se tournant sur sa chaise, il appela le garçon, il lui commanda deux armagnacs en précisant avec insistance « le plus vieux ». Qu'avait-il donc en tête ? Il devint grave, très grave, même empreint d'une dignité forçant au respect. Mais qu'allait-il encore m'annoncer ? D'un ton solennel, il m'expliqua les vertus de l'armagnac. Vous imaginez ma surprise, je ne parvins pas à savoir s'il plaisantait ou non. À peine servi, il manipula le verre avec précaution, se lança dans un enseignement spiritueux, comme il disait.
Vois-tu, dans le sud-ouest, on le boit sans le poser. D'ailleurs, les vers n'ont pas de pied. Et sais-tu pourquoi ? Parce qu'il faut les chauffer avec tendresse dans la paume de la main. Là-bas, ça se passe à la veillée tout en racontant sa vie. Ça peut durer longtemps, tu sais, car c'est une histoire d'amour avec ta propre chaleur. C'est tout un art de chauffer ce breuvage pour qu'il rencontre la tempérance de ta bouche sans la blesser.
Il se tut un court instant, entourant son verre de ses deux paumes comme on cajole un nouveau-né, puis il reprit.
Aucun armagnac n'est semblable. Une fois chauffé, c'est ta personne qui est venue l'habiter. Et puis, dans ce verre, les hommes ont mis le meilleur d'eux-mêmes. Tous ceux qui ont travaillé la terre, soigné les pieds, tous ceux qui ont surveillé les fous. Il y a l'amour de toutes ces mains expertes comme une chaîne où celui qui boit est le dernier maillon. Vois-tu, c'est comme cela que j'honore les morts, en portant un toast avec le meilleur de la terre, confondu au meilleur de moi-même.
Je ne l'avais pas encore vu venir, recréant cette importance sacrée qui soudain embrase tout. Nos verres devinrent des calices, et la pureté de notre acte salua l'univers.
Voilà, mon Jacques, la meilleure manière de traiter nos morts. Portons-leur ce baiser, offrons-leur le meilleur, appelons-les. Fais attention, mon ami, quand nos verres seront vides, il faudra que la vie reprenne, pas de nostalgie. Alors, elles sauront combien on les aime.
Ce fut bref, intense. Depuis ce jour, je n'ai jamais plus dégusté un armagnac sans la messe secrète qui l'accompagne. Et ça change tout. En quittant la table, Jacques se souvint de l'homme qu'il était, il y avait quelques jours à peine. Il se sentit prêt à l'aventure. Avec César à ses côtés, à coup sûr, cela n'allait pas manquer.
Nous venons d'écouter un extrait sur l'art du deuil, comment l'a reçu César, comment l'a transmis César. Et moi, je voulais vous faire écouter une interview de Bernard Montault qui me dit pourquoi cet épisode sur l'Armagnac. Écoutons-le.
Alors, c'était un autre aspect de l'enseignement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le focaliser sur l'Armagnac. Il faut focaliser sur le fait que, de temps en temps, il faut fêter ce mort. Je vous ai parlé là dans la réponse précédente de comment vivre ordinairement dans sa vie courante avec le mort. Et puis de temps en temps, il faut fêter ce mort. Et pour fêter ce mort, c'était l'autre aspect de l'enseignement, il faut choisir ce qu'il y a de meilleur sur Terre. Alors ça peut être un beau vêtement, un beau morceau de musique, un beau morceau d'opéra qu'il adorait, ça peut être un bel alcool, un bon vin, ça peut être n'importe quoi. L'important, c'est de créer un instant qui va offrir le meilleur de la Terre à cet être qui a disparu. Comme une espèce de cérémonie personnelle, je te dois le meilleur de la Terre, et bien je te l'offre. En ton nom, j'écoute cet opéra de Verdi que tu as tant aimé. En ton nom, je bois cet armagnac vieux, ce vieil armagnac qui coûte très cher, qui est un sommet d'alcool. En ton nom, je te donne le meilleur de la Terre.
Alors, vous êtes bien dans Café César avec Myriam et ses invités sur 93.6, Radio Bulle, votre radio de la Genêt. Alors, mes invités du jour et vous aussi, mes auditeurs, vous qui avez écouté cette histoire, vous avez peut-être été touchés par quelques mots ou par un passage. Est-ce que vous avez envie de réagir?
Qui commence?
Ouais. Bon, je trouve que c'est un très beau passage, c'est un très beau texte parce qu'il y a une dimension sacrée, voilà. Il y a une dimension spirituelle qui nous fait presque oublier que quand on évoque la mort, ça peut faire peur ou que c'est parfois encore un sujet tabou dans les familles, on n'ose pas, ça vient de notre éducation. Donc je dirais que ce texte, c'est une porte d'entrée en fait pour aborder la mort. Ou la peur de la mort. Et à partir de là, il y aurait tout un tas de choses à dire, en fait. Parce que je trouve qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Avant d'arriver à fêter les morts, à les honorer, il y a l'étape du deuil. Et je pense que quand on connaît les différentes étapes du deuil, à un moment donné, on ne peut pas se dire qu'un jour on va honorer les morts et qu'on... Enfin, voilà, c'est difficile.
Oui.
C'est difficile.
Oui, je l'ai pris un petit peu à la... Effectivement, à l'envers, c'est-à-dire qu'il y avait d'abord l'étape du deuil, et là, je rebondirai sur...
Non, mais c'est bien, parce que ça permet vraiment d'aborder la mort selon différentes portes, soit comment accompagner une personne endeuillée, comment une personne qui va mourir, ou qui doit faire le deuil de quelque chose. On peut faire le deuil quand on est enfant de son doudou, plus tard de son travail, plus tard, je sais pas, d'un bras, d'une jambe, de la sexualité, de sa sexualité. Si on a un cancer, par exemple, voilà. Donc c'est comment on... Voilà, et tout ça, ça n'empêche pas que... c'est peut-être que c'est difficile de parler de la mort et que ça reste encore tabou parce que derrière ça, il y a la peur de mourir, il y a la peur de la mort.
Oui.
Et je crois que dans le contexte actuel, je trouve que ce sujet, c'est du pain béni. Parce que depuis 2 ans, la peur de la mort est très forte. Et elle a été entretenue, parce que de toute façon, depuis très longtemps, que ce soit les religions ou les pouvoirs, ont entretenu la peur de la mort pour museler, pour contrôler les populations, les peuples. À un moment, les gens avaient tellement peur qu'ils ont été même conduits à dénoncer leurs voisins. La peur de la mort, c'est un outil de manipulation, mais quand on ose se confronter à cette peur et à la mort, c'est un super outil pour s'affranchir, pour apprendre à vivre les émotions, toutes les émotions, qu'elles soient désagréables ou pas. Et puis c'est aussi un super moyen pour reprendre notre pouvoir, finalement, aussi. C'est pour ça que je dis que ce texte est extrêmement riche. Je crois qu'on pourrait en parler des heures, vraiment des heures.
C'est sûr, y a... ouais,
parce qu'on peut le voir avec différents niveaux de lecture. Oui, oui.
Alors, on va essayer de rester sur... C'est vrai qu'on pourrait aborder tellement de formes de deuil. On va essayer de rester sur le deuil, le premier deuil, tout simple, celui que l'on vit lorsque l'on a perdu un être cher, peut-être. Est-ce que ça, vous avez envie de rebondir, Christelle ou Bruno?
Moi, j'ai envie de dire que la mort d'un être cher, c'est bien sûr la perte et que ça renvoie à l'abandon. On se sent abandonné, on se sent seul quand on perd une personne qui nous est chère.
Oui.
Oui.
Et toi, Bruno?
Oui, c'est ça. Le deuil, en fait, c'est plus compliqué pour celui qui reste que pour celui qui s'en va. Donc, c'est la palissade que je dis là. Mais oui, c'est ça, en fait. Hein. C'est un petit peu comme le sujet précédent, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, qui peut le rejoindre, la pensée positive et la pensée négative. Une mort peut rendre triste, parce qu'effectivement, on ne voit plus la personne devant soi, on ne peut plus la toucher, etc. Mais si on arrive à penser à des souvenirs, des beaux souvenirs, etc., ben, malgré ce deuil, on peut se surprendre à rire ou à sourire. Donc ça peut être aussi une espèce de communion, oui, entre le mort et celui qui vit encore. Donc je pense que dans une personne meurt physiquement, mais dans le cœur, je pense pas qu'elle meure. C'est pour ça la mort, c'est un petit peu, comme disait Delphine, c'est un petit peu tabou. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu tabou. Mais dans certains endroits du monde, la mort, c'est une fête. On se déguise, enfin, on s'habille en blanc, on fait la fête, etc.
Oui.
Donc, je crois que tu as parlé d'art du deuil, c'est ça? Oui, peut-être que dans certains endroits du monde, il y a un art du deuil. Et puis, je pense que le meilleur cimetière, je vais dire, pour cette personne qui meurt, c'est peut-être de la laisser reposer au fond de son cœur. Et voilà. En fait, la personne qui meurt, en fait, elle meurt que quand nous-mêmes, on meurt, quoi. Et voilà. Oui. Sinon, dans le texte, moi, j'ai beaucoup aimé aussi l'hommage à l'Armagnac. C'est presque de la publicité.
Oui. Ah oui, pour quelqu'un du Sud-Ouest comme toi, Bruno. Oui, j'ai parlé d'art du deuil parce que j'ai également interviewé Bernard Montault sur comment vivre le deuil quand on perd un être proche. Et il me disait que l'art du deuil, comme lui avait transmis Gita Malas, César, c'était de chaque fois que le mort nous revient à l'esprit, très souvent pendant un an ou deux, dans les premiers temps du deuil, il nous revient très 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 souvent à l'esprit. Et chaque fois qu'il nous revient à l'esprit, c'est comme pour nous dire, là maintenant je te reviens, moi je peux plus incarner la vie, mais toi tu peux. Donc j'avais une qualité à laquelle tu penses dans cet instant. Par exemple, c'était la convivialité, la chaleur humaine, la gentillesse. Eh bien, si je l'étais pour toi, là, maintenant. Alors, on peut gémir, on peut pleurer. Il y a deux portes. On peut faire... Et on peut aussi essayer, en l'honneur de la personne, d'être ce qu'elle ne peut plus être. Et du coup, eh bien, ça nous fait grandir. Voilà cet art du deuil que j'essaye de résumer avec mes modestes mots. et qui n'est pas facile, attention, mais qui permet de voir le haut, de regarder cette dimension-là d'un autre côté.
Oui, je crois que le deuil, c'est aussi une occasion pour nous de revenir à l'essentiel, à ce qui compte, de nous interroger sur la vie et sur ce qui compte vraiment. Et puis, peut-être qu'aussi, on pleure parce que, bien sûr, il y a la tristesse, il y a la perte, il y a la blessure de l'abandon qui se réveille, mais peut-être aussi qu'on on souffre parce qu'on a des remords et des regrets. Et je crois qu'au moment de partir, c'est avant de partir, je crois qu'il faudrait se dire, mais si, voilà, si j'apprends que demain, dans 4 mois, je pars, il me reste 4 mois à vivre, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais vivre, pour ne pas avoir de regrets ni de remords. Et partir tranquille, en paix. Et je pense que quand on sait ça, on voit la mort différemment, en fait. Et je pense que du coup, perdre quelqu'un... je pense que si la personne, elle revient comme ça dans notre esprit, c'est peut-être parce qu'on a un petit fond de culpabilité. Et je crois que c'est l'occasion de s'aimer et de se dire, non, aime-toi, arrête, cesse de culpabiliser. Aime-toi comme tu es, dans ta tristesse, tu es là. C'est normal, c'est un passage difficile. Oui. C'est difficile, c'est normal que tu n'arrives pas à avancer. Mm. Aime-toi comme tu es, là, avec ton émotion de tristesse. Finalement, je ne sais pas si vraiment on pleure l'autre. On pleure l'autre. Oui. Peut-être qu'on pleure sur nous-mêmes.
On pleure soi à travers l'autre. Ouais. C'est toujours, effectivement, on en revient toujours à ça. Mm. Mais c'est intéressant quand tu parles de culpabilité, c'est inévitable d'en ressentir. Et là, il nous conseille aussi de toujours... on peut toujours dire ses regrets, on peut toujours demander pardon à un être cher. On ne sait pas si longtemps. J'ai rencontré une artiste que je vais bientôt interviewer, qui nous parlait souvent de son papa, puis qui nous disait, mais moi, avant de faire mon œuvre d'art, je lui parle. Je ne sais pas, c'est ridicule, vous allez vous moquer de moi. Je ne sais pas s'il m'entend, mais en tout cas, moi, ça me fait du bien. Et nous, on lui a répondu, on était avec Patrick, et on lui a répondu, mais peu importe qui t'entend ou t'entend. C'est vrai, ça t'a fait du bien. Mmh. C'est une belle leçon, hein. Eh bien, ça y est, les amis, c'est déjà le moment de se dire au revoir. C'était Myriam Besson avec vous pour Café César sur Radio Bulle 93.6. Merci à Christelle, Bruno et Delphine pour leur chaleureuse participation. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même heure, sur votre radio de la Genêt, pour la suite des aventures de César. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez participer, devenir un des invités du jour, si vous en avez envie. Et vous pouvez aussi me retrouver dans mon club de lecture mensuel. Contactez-moi à myriam@radiobulle.net ou sur la page Facebook Café César. Au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir, Myriam.
Et merci, Myriam.